Alors, on va reprendre notre pauvre Saül. Alors, j'étais un peu tourmentée cette semaine parce que je me suis dit, oh là là, c'est un message plutôt démoralisant. Plutôt démoralisant. Je me dis, Seigneur, quand même, je ne peux pas faire ce message sans apporter quelque chose d'encourageant. Parce que je trouve ça vraiment, l'histoire de Saül, c'est déprimant. C'est déprimant de voir un homme qui a commencé, appelé par Dieu, équipé par Dieu, encouragé par le prophète, apprécié par le peuple, craint par les ennemis. Ça fait beaucoup tout ça quand même. Un bon début comme ça, c'est extraordinaire. Et puis de le voir maintenant à partir de la semaine dernière, on commence à le voir descendre la pente. Et ça fait vraiment mal au ventre. Parce que ça nous fait penser aussi à des hommes de Dieu qui ont bien commencé comme ça, qui ont eu des succès extraordinaires. Guérison, délivrance, évangélisation extraordinaire. Et qui un jour ont commencé à descendre à la pente. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à ceux-là aussi. Et ça fait mal au ventre. Ça fait mal de se dire comment c'est possible, Seigneur? Comment c'est possible? Donc on va en parler un petit peu après. Et on va essayer d'avoir un autre regard que celui qu'on risque d'avoir, c'est-à-dire pas un regard de jugement, surtout pas, mais d'avoir le regard de Dieu sur cette question. Et du coup, j'ai pas mal prié là-dessus parce que je me disais non, je ne veux pas démoraliser l'Église avec cette histoire. Et j'ai prié là-dessus et le Seigneur m'a montré, et si tu leur parlais de mon regard sur ces problèmes-là? Ça veut dire quoi? Et on va essayer, dans la limite de mes pauvres moyens, de voir cette histoire, on espère, avec les yeux de Dieu. Hein? Bon, j'ai suffisamment de textes aussi là-dessus. Parce que si on le regarde avec des yeux humains, franchement, on va tous partir démoralisés pour la semaine. Donc, je ne crois pas que ce soit le but. Donc, on va essayer de le voir avec les yeux de Dieu et ce sera peut-être un petit peu moins dur quand même à supporter. Donc, on en était resté, je crois, au verset 24 du chapitre 13, si je ne me trompe pas. Donc Jonathan avait attaqué un poste de Philistin. Il avait remporté une bataille considérable, quand même, à deux contre peut-être une vingtaine de soldats. C'était pas mal. Et puis, après cette bataille, le Seigneur est intervenu et l'armée qui était en bas a commencé à entrer dans une confusion épouvantable. Ils se sont tapés dessus les uns les autres. Et Saül l'a remarqué. Et il a été extrêmement surpris au début. Il ne savait pas trop quoi en penser. Et puis, au bout d'un moment, il a compris que Dieu était intervenu. L'armée partait en déroute. Et il a décidé quand même de suivre cette armée, de la poursuivre. Alors, je crois qu'on en était là. Verset 24, voilà. Donc, ils poursuivent les Philistins et les hommes d'Israël étaient serrés de près en ce jour-là. Alors là, il y a un petit problème de traduction encore. D'après ce que j'ai compris, c'est plutôt les hommes d'Israël étaient serrés de près, c'est-à-dire, bon, ils vivaient des choses difficiles, parce que, apparemment c'est le mot qui manquerait, parce que Saül imposa une adjuration à la troupe en disant « Maudit soit l'homme qui mangera avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Dès lors, personne ne mangea rien. Tous les hommes du pays étaient arrivés dans la forêt et il y avait du miel partout. Lorsque la troupe arriva dans la forêt, le miel y coulait, mais personne ne porta la main à la bouche car la troupe respectait le serment. Jonathan n'avait pas entendu que son père avait fait prêter serment à la troupe. Il avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, la plongea dans un rayon de miel, ramena la main à sa bouche, ses yeux se mirent à briller. D'autres versions disent ses yeux se sont éclaircis. Alors, quelqu'un de la troupe lui dit « Ton père a fait prêter serment à la troupe en disant « Maudit soit l'homme qui mangera aujourd'hui. » Or, la troupe était fatiguée. Et puis, ces petits versets qui en disent long. Hein. Or, la troupe était fatiguée. Et Jonathan dit, « Mon père a attiré le malheur sur le pays. » Waouh ! Il fallait oser à cette époque-là. Hein. Regardez, je vous prie, comme mes yeux brillent parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Si la troupe avait mangé aujourd'hui une part du butin qu'elle a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été bien plus grande ? Ah, un texte pas forcément évident. Serré de près, oui. Moi, je penche un peu. Alors, les critiques se divisent un peu là-dessus. Moi, j'ai choisi, parce que je trouve que ça a plus de sens, serré de près, parce que Saül avait imposé. Saül fait encore une bêtise. Alors, ça continue là, et ça va être de pire en pire. Il va abuser de son autorité royale, hein, pour imposer encore un rite religieux. Et là, il rentre de plus en plus là-dedans, les rites. Inutile, Dieu n'avait rien demandé, et dangereux, parce que aller se battre contre des ennemis, sans manger, si on pense un petit peu à tout ce que ça représentait, hein, le poids des armes, là ils avaient visiblement récupéré des épées de la bataille précédente, donc ils étaient équipés. C'est pas évident, hein, dans un terrain très accidenté, ils n'avaient pas des chaussures comme on a maintenant. C'était pas évident de marcher dans les pierres, etc., de courir derrière les ennemis, avec tous les risques, le stress, etc. Et puis on leur impose de ne pas manger. Un rite religieux, complètement inutile et dangereux. Maudit soit l'homme qui mangera avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Depuis quand c'est je qui dois se venger de ses propres ennemis? Là, ça commence déjà à mal aller. Comment est-ce qu'il prend sur lui toute cette guerre? Je me sois vengé. C'est Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. En d'autres temps, il aurait dit que l'Éternel se soit vengé de ses ennemis. Là, il y a un problème. Il commence à centrer les choses sur lui. Et souvent, quand on est mal à l'aise spirituellement, on a tendance à se réfugier dans les formes, dans les rituels. On voit ça dans toutes les religions. Alors là, le christianisme n'est pas épargné, parce que c'est plus facile que la relation avec Dieu au quotidien. C'est moins exigeant. Je fais ça, ça me prend tant de temps, après je suis tranquille. Alors attention, parce que la relation au quotidien, elle impose une repentance, accepter de changer, obéir à Dieu. Ça me touche profondément, ça change mes habitudes, mes façons de penser. C'est dur. Bien sûr, ça vaut le coup, mais c'est quand même plus dur que de dire pouf, je jeûne, ou pouf, je prie pendant tant de temps, pouf, je récite tant de prières, ou voilà. Les évangéliques ne sont pas épargnés de ce côté-là, il n'y a pas que les catholiques. Saül ne mentionne même pas la gloire de Dieu, la victoire de Dieu sur l'ennemi, quand même, c'est la moindre des choses. Il est complètement dans une dynamique égocentrique. Moi, je, mes ennemis, me venger. En qualité de roi, c'est vrai qu'il représente le peuple devant Dieu, mais en aucun cas, il doit en faire une affaire personnelle. Donc là, ça ne va déjà pas. Dieu, de son côté, avait pourvu au ravitaillement de la troupe. On ne peut pas s'empêcher de penser, hein, ce qu'il avait dit à, vous rappelez à Moïse, le pays où coule le lait et le miel. Alors, je dis souvent, le lait et le miel, ils ne coulent pas tout seuls, hein, les vaches, il faut les élever, etc., les nourrir. Le miel, c'est effectivement, on a moins à travailler, mais quand même, il y a un petit peu de boulot. Les apiculteurs nous le disent, hein, il y a quand même du boulot. Mais là, effectivement, c'était des abeilles sauvages, ça arrive apparemment souvent en Israël, qui faisaient qui bâtissaient leur nid dans des troncs creux ou des souches ou des trous dans la terre même parfois. Et effectivement, si le miel était abondant avec la chaleur, c'est pas étonnant que ça coule. Jonathan, lui, va profiter de cette occasion que Dieu offre. Parce que je pense que ça venait de Dieu. Ils sont passés justement par un endroit où ils pouvaient se restaurer, dans le pays où coule le lait et le miel. Non mais on était complètement là, dans la promesse de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans l'amour de Dieu. Jonathan, lui, merci Seigneur, et hop, il mange. Jonathan va profiter. Et il ne sait pas ce que son père a dit, et lui, ses forces reviennent, sa vue s'éclaircit. Il est prêt à continuer à se battre. Quand il apprend qu'il n'avait pas le droit, sur le coup, il ne se repent pas, hein, il dit « Mon père a attiré le malheur sur le pays. » Waouh, il avait réfléchi, Jonathan. Vous vous souvenez, Jonathan, il est encourageant, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de foi, c'est un homme qui a à cœur la gloire de Dieu. Et à quoi il faisait allusion, je me suis demandé. Est-ce que déjà, il avait entendu ce qui s'était passé quand son père avait fait les sacrifices, qui étaient parfaitement interdits à un roi? et il avait perdu du coup la possibilité de régner. Ça faisait peut-être partie de la chose. Mon père attire le malheur sur ce pays. Je pense qu'il se sentait prêt à être roi, Jonathan. Il se sentait équipé. Il avait confiance en Dieu. Et bah, c'était fini. Il savait que c'était fini pour lui. Il n'avait pas d'amertume, mais il était quand même conscient que c'était la faute de son père. Et il n'hésite pas à dire « Mon père a tiré le malheur sur ce pays ». Mais surtout, son explication est claire. Regardez, comme après que j'ai goûté un peu de ce miel, bon, je vais bien, mes yeux brillent, etc. Si la troupe avait mangé aujourd'hui une part du butin, la défaite des Philistins aurait été plus grande. Qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est visiblement pas centré trop sur lui, c'est la défaite des Philistins. Ça fait des siècles que les Philistins cassent les pieds au peuple. Et vous savez, j'ai déjà dit, ils s'arrangeaient toujours pour attendre le moment des récoltes, pour venir tout rafler une fois que le blé était battu et tout. C'est plus drôle, hein, parce que s'il faut le couper et tout, hein, non, pas question. Ils laissaient tout préparé, tout stocké, et quand tout était stocké, ils venaient voler. C'est un bon symbole, hein, comme je disais la semaine dernière, de ce que fait l'ennemi. L'ennemi s'arrange pour venir nous voler les choses au moment où on va commencer à en profiter. Ça, c'est vraiment un des plans de l'ennemi, que ce soit pour les gens du monde comme pour nous d'ailleurs. Il a la même tactique. Il attend qu'on ait stocké quelque chose, qu'on ait reçu une bénédiction, qu'on ait... pour venir voler. C'est triste. Dieu, de son côté, lui, pourvoit au ravitaillement. On voit toujours, hein, il pourvoit aux choses. Et on ne peut pas s'empêcher, évidemment, de penser à ce pays où coule le lait et le miel. Il réagit fortement, Jonathan. Il pense certainement au sacrifice, il pense probablement à sa royauté, mais il pense aussi au peuple, qui en a marre depuis des siècles d'être envahi par les Philistins qui viennent régulièrement. Je vous avais dit la semaine dernière, c'est comme les Vikings. Hein. Ils venaient, ils volaient tout, pillaient, etc. Et ils repartaient. Et ils attendaient la prochaine fois pour revenir se prendre du butin. Ça aurait été une grande victoire parce qu'on aurait risqué de les éliminer définitivement. S'ils avaient été bien écrasés cette fois-là, peut-être ils ne seraient pas revenus. Jonathan pense à l'armée, il pense à Dieu, il pense au peuple. Saül lui avait demandé un signe extérieur, le jeûne. Alors on peut se demander, est-ce qu'il voulait se racheter ? Il avait fait une grosse bêtise en faisant les sacrifices. Et il s'est peut-être dit, en jeûnant, je vais me racheter. C'est dommage. S'il voulait se racheter, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Ce n'était pas jeûner avec tout le peuple et priver les soldats de force. À quoi il pensait ? S'il voulait vraiment se racheter auprès de Dieu, c'était quoi le chemin ? La repentance. Il pouvait se repentir. Et faire un sacrifice avec le sacrificateur, sacrifice de repentance. Il pouvait. Il y avait ce qu'il fallait. Bien sûr, Jésus n'était pas encore venu. Mais il y avait ce qu'il fallait dans la loi de Moïse pour se repentir et pour demander pardon. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il impose un jeûne à tout le monde. Ce n'était pas ça que Dieu demandait. Il demandait une repentance. Ou bien le jeûne, oui, mais avec la repentance. Mais un jeûne sans repentance, ça restait vide de sens. Je me souviens quand les enfants étaient petits, j'aimais bien avoir un jour pour jeûner et prier. Puis un jour, je me suis dit, c'est quand même terrible parce que j'arrivais à jeûner, ce n'était pas un problème parce que je récupérais plus de temps pour m'occuper des enfants. Seulement, je ne trouvais pas le temps de prier. Donc je me disais, ça ressemble à quoi ce que je fais là ? Voilà, mais c'est vrai, c'est le jeûne en lui-même, il n'a pas de valeur devant Dieu. Il a de la valeur dans la mesure où on va lui consacrer du temps pour prier, pour demander pardon, etc. C'est logique. Et la ferveur despotique de Saül mettait les hommes en état de faiblesse, ce qui fait que le soir, on le lit un petit peu après, ils étaient complètement épuisés, affamés, et ils retombent sur le butin, les animaux. Bah, vous savez, quand ils venaient à la guerre, ils emmenaient leur frigo en général. Hein. C'était tous des animaux sur pattes, vivants, et on les tuait et on les mangeait. Ça se conservait mieux vivant que mort, c'est évident, dans un climat chaud. Et donc, ils sont tombés sur le butin, et puis ils ont commencé à tuer les animaux n'importe comment. Alors là, c'est pareil, les traducteurs se divisent un peu, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent dire. En gros, ils prennent du bétail et ils les tuent sur la terre, au-dessus du sang versé. Alors on ne sait pas si ça veut dire qu'ils les ont tués en gardant le sang dans la viande, ce qui était interdit, ou si ils l'ont fait très salement sur la terre. C'est peut-être les deux d'ailleurs, c'est pas grave. Mais en gros, ils ne respectaient pas du tout les règles d'hygiène et les règles religieuses qui étaient imposées par Moïse. Que Moïse avait transmis. Donc on se retrouve avec un signe extérieur de consécration, le jeûne, qui va amener les gens à transgresser ouvertement la loi divine dans un domaine plus dangereux, même dangereux pour leur santé peut-être. Donc cette décision arbitraire et hâtive de Saül, et toutes ses actions d'ailleurs impulsives et inconsidérées, montrent complètement son manque de sagesse. Saül s'éloigne progressivement de Dieu. Et il entraîne les autres avec lui, il leur crée des problèmes, comme toujours, dans ces cas-là. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on est évangélique, on est à l'abri de ce genre de choses. On est humain, profondément humain, et très vite, on peut croire que les actes extérieurs vont nous donner la faveur de Dieu. Non, jamais. C'est uniquement ce qui se passe dans notre cœur. Ça peut s'accompagner d'actes extérieurs, à condition qu'il y ait la correspondance dans le cœur. C'est comme les gens qui prennent le baptême. Hein. Même le baptême d'eau des adultes, parfois peut être vide de sens si on le fait parce que bah, tout le monde le fait, ou parce qu'il faut le faire, ou parce que je suis dans une église de style baptiste. Mais si ça n'accompagne pas un changement de cœur, si ça n'accompagne pas une volonté de dire, voilà, je meurs à mes péchés et je sors de l'eau, voilà, en acceptant la grâce de Dieu, etc., c'est un rite religieux qui ne nous sauvera pas. Attention. Donc cette fois-ci, Saül décide d'attaquer les Philistins de nuit. Ben tiens, ça lui prend comme ça, d'un seul coup. Pendant la nuit, tout le monde mange. Là, il les laisse manger, les pauvres. Hein. Pendant la nuit, chacun amena son propre bœuf afin de l'immoler à cet endroit. Saül quand même a exigé que ça se fasse proprement sur une pierre et selon les rites, etc. Et puis, il a vu la faute. Hein. Ouh, il n'a pas eu de problème. On dit à Saül, la troupe pêche contre le Seigneur en mangeant au-dessus du sang. Et alors Saül, il part dans une colère. Vous vous êtes conduits comme des traîtres. Bon, tiens. Roulez tout de suite vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, dispersez-vous dans la troupe, dites à chacun de m'amener son bœuf, etc. Vous mangerez ensuite et vous ne pêcherez pas contre le Seigneur. Il est d'un seul coup soucieux qu'on ne pêche pas contre le Seigneur. Souvent, c'est les gens qui sont le plus dans le péché, qui voient le mieux les péchés des autres. Ah, ma mère avait une coutume. C'était l'époque où les dames faisaient des magnifiques chignons. Et elle disait souvent, oh là là, parce que bon, dans les assemblées de Dieu, il fallait avoir les cheveux longs. Et donc les femmes faisaient des jolis chignons. Et ma mère disait, avait coutume de dire, oh là là, ils passent leur temps à cacher leur méchanceté dans leurs chignons. Et il y avait du vrai là-dedans. Hein, on faisait un truc pour plaire au Seigneur ou voilà, suivre les rites de son église. Mais voilà, on y cachait sa méchanceté. Et c'est un petit peu ça. Il va voir le péché des autres et il ne traite toujours pas le sien. J'ai toujours pas vu un moment où il reconnaît qu'il est désolé d'avoir fait ce sacrifice, de s'être laissé aller à l'impatience ou à l'orgueil ou je ne sais quoi. Par contre, alors là, il loupe pas ses soldats. Oh, vous vous rendez compte, vous avez sacrifié des animaux n'importe comment. Ah, comme on est prompt à voir les péchés des autres quand soi-même on est dans le péché. Ça, alors là, c'est une, je me souviens, toujours dans cette brave église, on avait tout un tas de petites grand-mères. Certaines avaient eu des vies vraiment dépravées et elles avaient été vraiment sauvées par le Seigneur, pardonnées, c'est clair. Mais alors, qu'est-ce que celles-là, elles étaient prêtes à voir les péchés chez les autres? Bien plus que les gens qui avaient une vie bon, de péché, bien sûr, mais normale, enfin courante. Personne n'est parfait, tout le monde a péché. Mais c'était ceux qui avaient fait le plus d'âneries dans leur vie, qui étaient prêtes à voir le péché même là où il n'était pas. Hein? Et on retrouve ça avec Saül. Hein? Alors, lui, il est complètement là, il est en train de descendre la pente, et qu'est-ce qu'il voit? Le péché des soldats. Puis il en fait tout un truc, il les traite de traîtres. Mais qui c'était, le traître, là? N'ose pas dire. Hein? Ah là 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 là. Donc attention, si on a une tendance à accuser les autres, commençons déjà, vous vous souvenez, on dit toujours, hein, quand on pointe le doigt vers les autres, on en a trois dans notre direction. Donc commençons déjà à regarder nous-mêmes, nos cœurs, avant d'accuser les autres, parce qu'on ne sait jamais. La tendance est vite là de pointer le doigt sur les autres, alors que nous, on a peut-être des choses à régler. Et là, c'est vrai pour tout le monde. On est tous pareils, on est tous humains. Jonathan a risqué sa vie, lui, de son côté, pour libérer son peuple. Dieu a accompagné son action. Dieu a été vraiment glorifié. Pourquoi est-ce qu'il va chercher à lui nuire? Ah, on va voir ça dans la suite. Saül dit, attaquons les Philistins cette nuit, pillons-les jusqu'à l'aube et qu'il n'en reste pas un seul. » Ça aurait été fait s'il les avait laissés manger. Il dit, « Fais tout ce qu'il te plaira. » Ils sont sympas, ces soldats, quand même. Alors le prêtre dit, « Présentons-nous ici devant Dieu. » Et Saül interroge Dieu. Heureusement, le prêtre lui avait rappelé qu'il fallait peut-être mieux interroger Dieu avant de partir à la guerre. « Dois-je attaquer les Philistins ? Les livreras-tu à Israël ?» Mais ce jour-là, Dieu ne répondit pas. Ça, c'est mauvais signe. Si Dieu ne répond pas, Saül aurait pu dire, « Ouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ça aurait été la moindre des choses, après ce qu'il avait fait. C'était gros, quand même. Non, pas du tout. Il dit, « Approchez ici, vous tous, chefs du peuple. » Allez, on va voir les responsables, là. « Vous voyez bien en quoi il y a eu péché aujourd'hui. » Bon. « Par la vie du Seigneur, le sauveur d'Israël, même si c'est Jonathan, mon fils, qui en est l'auteur, il sera mis à mort. » Mais qu'est-ce que vient faire Jonathan là-dedans? Est-ce qu'il ne savait pas? Pourquoi est-ce que la première idée qu'il a, ça pourrait être la faute de Jonathan? Pour moi, je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est le signe que la jalousie était arrivée dans son cœur. Jaloux que c'était la énième fois que Jonathan avait remporté une victoire. Jaloux que Dieu l'avait aidé et que Jonathan était resté un homme solide, fidèle à Dieu, alors que lui commençait à descendre la pente. Et souvent, on constate ça aussi, quand on commence à descendre la pente, on va accuser ceux qui marchent droit. On va leur trouver des poux, c'est des humains, c'est normal. C'est facile à trouver. Mais là, on sent tout de suite qu'il a envie d'attaquer Jonathan. Il y a eu péché aujourd'hui. Moi, je le trouve culotté quand même, hein. Il pense plus du tout à sa propre désobéissance, à son manque de sagesse, au refus de consulter Dieu. Déjà, avant la première bataille, vous vous souvenez, le prêtre allait consulter Dieu. Il dit « Arrête ta main, allez, on file. » À la malédiction qu'il avait émise, ça ne se fait pas quand même pour un roi. Mais c'est curieux qu'il pense à Jonathan. Il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, Jonathan, mon fils et moi, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te plaira. » Bon, ils ne sont pas contrariants, hein. Saül dit au Seigneur, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Ah, il ose. Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut mis hors de cause. Saül dit, tirez au sort entre moi et Jonathan. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, raconte-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui raconta. Et vous, écoutez bien la réponse de Jonathan. J'ai goûté un peu de miel, dit-il, avec l'extrémité du bâton que j'avais à la main. « Eh bien, que je meure. » Il est clair, Jonathan. Rappelez-vous, quand Samuel est venu voir Saül, il lui a dit « Mais qu'as-tu fait ?» Théoriquement, il aurait dû répondre « J'ai pas attendu, j'ai fait le sacrifice. » Mais il est parti dans une explication. « C'est la faute du peuple, c'est ta faute à toi qui es en retard, c'est la faute. » C'était toujours la faute des ennemis, c'est la faute de tout plein de gens. Il n'a jamais dit clairement, comme Jonathan, « J'ai fait ceci, j'ai fait cela, eh bien que j'en porte la peine. » Jonathan, lui, est un homme droit, intègre. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il répond. « Saül, qu'est-ce que tu as fait ?» Ah ben, c'est les autres. Et Saül dit « Que Dieu fasse ceci et qu'il ajoute cela. » C'est une formule. Hein. « Tu mourras, Jonathan. » Tu mourras, Jonathan. C'est son fils. Il n'a pas, même pas un instant de réflexion. C'est pour ça, je pense que la jalousie était rentrée dans son cœur. Il n'a même pas un instant pour dire « On va convoquer Samuel, on va lui demander ce qu'on peut faire, comment tu peux te repentir. » Enfin, rien. Eh bien, qu'il meure, pouf, pouf. C'était son fils aîné. C'était théoriquement celui qui devait lui succéder. Pas de souci, eh bien, qu'il meure. Vous voyez que la jalousie était déjà là. L'envie d'éliminer son meilleur guerrier, son fils, un homme de Dieu. Waouh, il est mal quand même, notre Saül, là. Il a risqué sa vie pour libérer le peuple. Dieu avait accompagné son action. Pourquoi est-ce qu'il cherchait à lui nuire? Je pense que la jalousie était là. Attention aux vœux insensés. Il avait fait un vœu insensé. Il y en a un deuxième comme ça dans la Bible, c'était Jephté. Hein, que si j'ai réussi la bataille, si je gagne la bataille, la première personne qui viendra à ma rencontre en arrivant, je la sacrifierai. Et bon, c'était sa fille. Unique, je crois. Voilà, voilà ce genre de vœux insensés. Alors, bien sûr, nous, on ne fait pas des vœux comme ça, parce qu'on aurait des problèmes avec la loi. Mais on en fait d'autres. Et vous savez qu'un des problèmes les plus importants pour les non-guérisons, c'est souvent les vœux insensés. C'est les Sanford qui racontaient un couple qui n'arrivait pas à s'entendre, qui se disputaient tout le temps, alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Donc ils sont venus consulter les Sanford, et eux-mêmes ne voyaient pas très bien. Ils avaient tout pour s'entendre, mais pourquoi il y avait tout le temps cette froideur aussi chez ce monsieur, qui était toujours très, très froid, très glacé, et il n'exprimait rien. Évidemment, sa femme, elle en avait par-dessus la tête, on la comprend. Et ça n'allait pas du tout. Et alors, ils ont prié, parce que bon, ils font la relation d'aide prophétique, donc ils ont prié. Et Dieu leur a révélé, il s'est passé quelque chose dans ta vie à toi. Tu as certainement fait un vœu insensé. Un vœu insensé, c'est quoi ça? Tu t'es promis quelque chose à toi-même, avec quelque chose du genre « jamais » ou « toujours ». Jamais je ferai ça ou je ferai toujours ça. Et alors, ils ont prié pour lui et il lui est revenu une image. C'est une histoire assez triste. Quand il avait, je crois, 8 ans, 7-8 ans, c'était la fin de la journée, il était chez son oncle et sa tante et il jouait dans la baignoire avec son cousin. Et la nouvelle est arrivée que ses parents étaient décédés dans un accident de voiture. Donc il a été adopté par son oncle et sa tante, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais quand il a entendu la nouvelle, au lieu de pleurer, il a fait le garçon fort et solide. Il a tapé dans la main de son cousin. Il dit, jamais on ne pleurera. De ce jour-là, ses sentiments ont été bloqués. Et même avec sa femme, ce n'était pas facile. La relation était morte. C'est bête, hein? Une parole prononcée à 7-8 ans. Comment est-ce que ça peut faire? Eh bien, le diable utilise ça. Et chaque fois que nous faisons des vœux insensés, on est amené à en faire de temps en temps, il faut faire attention. Il en profite. C'est une porte d'entrée, toute bête. Hein, parfois on pense aux énormes péchés que j'ai pu commettre. Et parfois c'est des bêtises comme ça. Mais il se sert de tout, une parole prononcée. Avec sérieux, oh ben c'est sûr qu'il y croyait le gamin. Hein. Je ne pleurerai pas. Et il n'a pas pleuré, hein, il a réussi. À l'enterrement de ses parents, il ne pleurait pas. Après il n'a pas pleuré, il n'a jamais exprimé ses sentiments. Une fois marié, vous imaginez. Voilà. Donc attention aux vœux insensés. Et je pense que s'il y a des domaines dans nos vies où on n'a pas la victoire, où on ne s'en sort pas, où on sent qu'on tourne en rond, pourtant on prie, les gens prient pour nous, ce n'est pas forcément ça, hein, mais posez-vous la question, posons-nous la question, est-ce qu'un jour je n'ai pas prononcé un vœu insensé? Est-ce qu'un jour je n'ai pas dit jamais je ne ferai ça, ou je ferai toujours comme ça? Et c'est une porte d'entrée pour l'ennemi, complètement. Je pense à une dame particulièrement qui est bien intelligente, mais qui s'est mis en tête qu'elle ne l'était pas. De toute façon, moi, je suis bête. Tout ça parce qu'un jour, un prof avait lu son devoir en classe, en troisième, et avait fait rigoler toute la classe en se moquant de son devoir. C'est quelqu'un de très intelligent, mais elle s'est bloquée par ses paroles. Je suis bête, voilà. Et c'est terminé. Vous voyez ? Donc attention, essayez de réfléchir. S'il y a eu des paroles de ce genre dans votre vie, parce que ça peut créer des blocages où on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Eh bien si, le diable utilise ces paroles-là, ces paroles prononcées avec sérieux. Oui, puis en général, aussi, Dieu a de l'humour quand c'est pour des choses moins graves. Moi, j'avais dit que je ne me marierais jamais avec un Alsacien. Voilà. J'ai dû me repentir quelque part. Voilà, vous avez remarqué ça, je pense, hein. Souvent quand on dit jamais, voilà. Bon, ça c'est un peu l'humour de Dieu. Mais pensez à ces vœux insensés, parce que parfois ça peut créer des blocages dans les vies, parce que le diable, c'est comme si vous lui ouvrez une petite porte ou une grande porte, et whoop, il s'engouffre. Et après, il fait ce qu'il veut, il s'appuie sur du légal. Vous l'avez prononcé, il est en droit de faire ce qu'il veut. Effectivement, ça sera jamais ou toujours. Voilà, donc attention. Saül s'est fichu dans la pétrasse avec ça aussi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est l'attitude du peuple. L'attitude du peuple, d'abord, ils ne répondent pas. Puis après, Saül dit que Dieu fasse ceci, que cela. Tu mourras, Jonathan. Et là, le peuple se fâche. Quoi ? Jonathan mourrait ? Lui qui a réalisé une si grande victoire en Israël ? Allez, autant pour l'orgueil de Saül. Jamais. Par la vie du Seigneur, il ne tombera pas à terre un seul cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi en ce jour. Là, je pense que la jalousie de Saül a dû se multiplier par 10. Ainsi, le peuple dégagea Jonathan. Alors, certains commentateurs disent, peut-être ils ont fait un sacrifice pour le dégager. On ne sait pas trop ce que veut dire dégagea, mais c'est possible. Dégager de la promesse. Il ne mourut pas. Et après avoir poursuivi les Philistins, Saül remonta. Quant aux Philistins, ils s'en allèrent chez eux et ce n'est pas ce qui aurait dû se produire. S'il avait laissé manger ses troupes, les Philistins ne seraient pas rentrés chez eux. Ils seraient morts. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça fait mal au cœur parce qu'on pense que Saül, au début de sa carrière, vous vous souvenez, les gens qui l'avaient méprisé, puis qui avaient dit, oh, ce bonhomme-là, vous croyez que ça, il peut devenir roi, ou pouf, il peut diriger nos armées, pouf. Hein? Et quand il a gagné la bataille, les gens lui ont dit, allez, tu les tues, tous ceux-là qui se sont moqués de toi. Et vous vous souvenez de sa réponse, ça a fêté non, un jour de victoire, c'est un jour de victoire de l'Éternel, on ne tuera personne. Et là, il est prêt à tuer son fils. Voyez un peu ce qu'il a. Il a empiré, le pauvre gars. Des gens qu'il méprisait, il les a sauvés. Il était dans l'esprit de Dieu. Et après, même son propre fils, il est prêt à le tuer. Voyez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il glisse la pente de plus en plus. Devant l'attitude du peuple, il se gare, heureusement. Mais là aussi, il aurait eu une occasion de se repentir de ce vœu insensé en voyant le peuple. En disant, oui, j'ai péché comme David. Oui, j'ai péché. J'aurais jamais dû faire ce vœu insensé. On va faire un sacrifice à l'Éternel. On va appeler les prêtres, on va appeler Samuel. Et puis, je vais me repentir. Il ne bouge pas. Il poursuit les Philistins. Il y en a une partie qui rentre chez eux. C'est bon, on n'en parle plus. Ah. La notion de mettre un mouchoir dessus, il connaissait Saül. Ça ne s'appelait pas comme ça à cette époque-là. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Allez, on n'en parle plus. Hein. C'est bon. Il a vu la preuve que la victoire aurait été bien plus grande si les hommes avaient mangé, que l'épuisement et la faim les avaient fait pécher en plus, que Jonathan ignorait totalement ce serment, 3 fautes graves envers Dieu et envers le peuple, envers son propre fils, et pas une trace de regret. C'est fou! Ça fait quand même beaucoup, hein? Pas une trace de regret, pas une trace de repentance. On constate l'endurcissement de Saül, il s'attache de plus en plus au rite extérieur, il cherche le péché chez les autres, mais ne manifeste aucune repentance pour lui-même, même le nez dedans. Malgré tout, Dieu accorde ses victoires, et ça c'est important. Malgré tout, Dieu accorde ses victoires. Et vous savez, quand parfois on a cette image d'un Dieu qui est prêt à vous sauter dessus, à vous donner une correction, vous voyez là, Dieu accorde quand même sa victoire. La bonté de Dieu. Et là, on va en reparler de la bonté de Dieu. Le peuple est encouragé, le peuple est béni, la victoire est acquise. Dieu garde son alliance, même malgré ce qui s'est passé avec Samuel. Dieu garde son alliance. Rappelez-vous Samuel et Élie ? Dieu avait préparé Samuel quand Élie a commencé à descendre la pente. Et là, Dieu est en train de préparer David, qui lui saura se repentir. Alors, on arrive à une nouvelle faute de Saül, et c'est là que je commençais à démoraliser. Parce que je me suis dit, là, pauvre église, je ne peux pas leur faire ça. Ça empire de plus en plus. Et c'est dur, mais on va essayer de voir les choses un petit peu différemment. Alors, la grâce de Dieu d'abord. Quand Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, verset 47, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. Waouh ! Moab, Ammonite, Édom, Tsoba et aux Philistins. Partout où il allait, il était vainqueur. Dieu ne l'a pas abandonné. Curieux, hein? Il déploya, alors par contre, il parle. Il déploya sa force, bâtit Amalek, et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Il déploya sa force. Partout où il allait, il était vainqueur. Littéralement, ça veut dire il sauvait. Il déploie sa force, il bat, ceci, cela. Il délivre Israël de la main de ceux qui le pillaient. Formidable, c'est exactement ce que Dieu avait demandé. Et puis, bon, après, il y a sa généalogie, ça nous intéresse beaucoup moins. Et à la fin, il dit, tout homme vaillant, donc verset 52, fin du verset 52, tout homme vaillant et fort que Saül remarquait, il se l'adjoignait. Vous voyez un petit peu ? Tout homme vaillant et fort, il se l'adjoignait. Et on s'aperçoit après qu'il avait 200 000 soldats, je crois. Hein, ce n'est plus les petits chiffres qu'on avait au début, hein, 600. Tout homme vaillant et fort, il se l'adjoignait. Il déployait sa force. Ça parle, hein. Il était vainqueur partout où il allait. Il délivra Israël de la main de tous ceux qui le pillaient. Bah, dites donc, c'est une image rudement glorieuse de Saül, roi d'Israël, toujours vainqueur, qui délivre, qui sauve. On a une impression de puissance et de succès. On pourrait penser, mais qu'est-ce qu'il est béni de Dieu, cet homme ? C'est clair que Dieu est avec lui. Quel homme de Dieu, courageux, efficace. Mais ce qui est ennuyeux dans ce texte, c'est qu'il n'y a aucune mention de Dieu. Si j'ai bien lu, hein, il déploie, il délivre, il... C'est gênant. Ni de Samuel d'ailleurs. On insiste vraiment sur il. C'est un homme qui réussit en fait à la force du poignet. C'est un bon soldat, c'est un bon stratège, c'est un bon recruteur. Et en luttant contre les Philistins, il est parfaitement dans la volonté de Dieu. Dieu avait demandé qu'on élimine ces pillards. Depuis Josué, ça avait été demandé. Et Dieu reste bienveillant et patient envers Saül et envers le peuple, parce que Dieu voulait que le peuple soit libéré des pillards. Il sait s'entourer des bons guerriers. Par contre, on peut se poser la question, où sont les bons conseillers pour un roi? Quelle est la participation de Jonathan? Absent. Et je me rappelle que lors de la première guerre, il a crié « Quiconque ne montera pas derrière Saül et Samuel, l'homme de Dieu. » Là, on ne parle plus de Samuel, ni de Jonathan. Quelle est la part de Dieu dans les batailles? On n'en parle pas non plus. Vous vous rappelez la frayeur de Dieu, le tremblement de terre, les orages dans les différentes batailles? On n'en parle plus. Aucune mention de sa foi, de sa relation avec Dieu, ni avec Samuel. Et alors on peut se poser la question, est-ce qu'on peut servir Dieu efficacement en faisant ce qu'il demande à la force du poignet, par nos propres forces, par nos propres talents, par notre organisation, nos capacités humaines, physiques, intellectuelles? Physique, oui, parce que je pense que quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, par exemple, peut être extrêmement efficace. Non, moi, je suis une marmotte, donc voilà, je ne suis pas très efficace. La force physique, la mise en place d'équipes efficaces, de management, dernier cri, même dans les églises. Est-ce qu'on peut servir Dieu efficacement avec tout ça? Eh bien oui. Oui, on peut servir Dieu efficacement à la force du poignet. Je dirais oui, mais. C'est comme pour Samuel, la relation avec Dieu est de type religieux et rituel. Être un bon chrétien, faire ce qu'il faut, lire sa Bible, prier, jeûner, aller à l'église. Mais qu'il n'y a pas une implication profonde personnellement du style marcher par l'esprit. Première leçon du TQP. Si on travaille sans humilité, sans dépendance de Dieu, ça peut marcher pendant un temps. Oui, ça peut marcher pendant un temps. Mais très vite, la chair, c'est-à-dire notre nature humaine, va prendre le dessus. La crainte de Dieu va progressivement s'effacer. C'est exactement ce qui se passe avec Saül. L'orgueil et l'autosuffisance vont remplacer la crainte de Dieu. Et la chute va être brutale et douloureuse. Surtout quand on interprète la patience et la bienveillance de Dieu comme une approbation. Et malheureusement, je crains qu'il y a beaucoup de chrétiens et de ministères qui fonctionnent à la force du poignet. Avec courage, avec persévérance, avec fidélité, mais à la force du poignet. Et c'est le risque qu'on a tous. Quand on est un bon chrétien, je ne parle pas de ceux qui prennent les choses à la légère, mais quand on est un bon chrétien, c'est un risque réel de marcher à la force du poignet. Je fais, Marthe. Et puis on oublie d'être Marie. Mais pourtant, si les choses vont mal, on va se dire, mais Dieu était avec moi. J'avais des victoires. J'avais du succès. Et combien de ministères ont eu des grandes victoires, de succès, des guérisons, etc. Oui, parce que Dieu est bon. Il est toujours avec nous. Il a de l'amour, de la patience et de la bienveillance. Il nous appelle à une vraie relation avec lui, justement, parce qu'il est amour et bienveillance. Mais avant de travailler pour lui, il espère une relation avec nous. Une dépendance dans l'obéissance, une adoration comme celle de David. Et c'est là le problème, l'adoration de Dieu, la foi en Dieu et l'adoration de Dieu qui va être manifestée chez David, mais pas du tout chez Saül. Saül, il va y aller à la force du poignet. Il fait la volonté de Dieu, on chasse les Philistins, on fait la guerre, mais il le fait à la force du poignet. Il recrute des gens, il se bat, etc. À la force du poignet. Alors on fait les rites comme il faut, mais voilà, en dessous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça fait peur. Parce que, en fait, c'est trompeur. Dieu l'accompagne. Dieu l'accompagne, quand même, avec bienveillance. Et Dieu va laisser Saül aller de victoire en victoire. Pourquoi ? À cause de son nom. Parce que l'ennemi, sinon, dirait « Ah, vous avez vu leur Dieu, hein ?» À cause du peuple qui a besoin de vivre et d'être libéré. Vous savez, avoir vos récoltes tout le temps volées par les pillards, il y en a marre. Hein. Donc Dieu a pitié du peuple. À cause de sa bienveillance et de sa patience à l'égard d'un homme qu'il a appelé et qu'il a équipé. À cause aussi de l'idolâtrie des peuples en face, qui ne se gênaient pas pour jeter leur bébé au feu, hein, pour leur Dieu. Ça, Dieu ne supportait pas. Hein. Vous le trouvez à différentes reprises dans la Bible. À cause de l'ordre aussi qui avait été donné par Moïse et Josué d'éliminer les peuples, et à cause de ses promesses pour Canaan. Vous voyez, ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu agissait. Mais malheureusement, parfois, Saül, je pense, croyait que c'était à cause de lui. Tout va bien. Bon, d'accord, je fais des bêtises, mais ça va. Et je crois qu'il faut qu'on sache quand même que Dieu agit parfois encore avec des gens qu'il a appelés et qui foirent, entre guillemets. Au moins pendant un temps, et probablement pour les mêmes raisons. Mais attention, si l'homme persiste dans la désobéissance, refuse obstinément de se repentir, comme Saül, eh bien on se retrouve dans la configuration de ceux dont Jésus parlait. Vous vous souvenez, mais j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai guéri des malades. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les malades ont été guéris par qui ? Par Dieu. Les démons ont été chassés au nom de qui ? De Jésus. Celui qui le fait n'est qu'un instrument. Et si Dieu a exaucé, c'est pas parce que c'était un grand bonhomme, c'est parce que il est fidèle à son alliance, il est fidèle à son grand nom. Il veut qu'on soit débarrassé de nos ennemis. Donc faisons très attention, déjà de ne pas rentrer dans le jugement de ces gens qui tombent, mais d'un autre sens, soyons prudents, les idolâtrons pas. Au contraire, je pense que c'est les aider que quelquefois leur rappeler qu'ils sont sur une pente dangereuse. Et évidemment, on pense à pas mal de gens dans ces cas-là qui continuent à servir de Dieu, qui ont du succès, mais qui n'ont plus la relation avec Dieu. Et un jour ou l'autre, ça va aller mal, très mal pour eux, et c'est dommage. Donc prions, prions pour ceux qu'on connaît, et que Dieu préserve, que Dieu ramène la repentance, Dieu ramène la relation dans leur vie, parce que c'est dommage, et c'est surtout, ça fait du tort au peuple de Dieu. Quand ces gens-là tombent, tu dis, mais pourtant, ils avaient fait des guérisons, ils avaient fait des miracles. Et oui, exactement comme Saül. Victoire, victoire, victoire. Il vivait dans la victoire, cet homme-là. Aïe, aïe, aïe. C'était pas une preuve. C'est fou, hein ? Vous vous rendez compte, vous lisez ça, il va de victoire en victoire. C'est un homme rempli de succès. Dieu s'était retiré. L'obéissance, c'est le point numéro 1. Alors, si j'avais un titre à donner au chapitre 15, je pense bientôt m'arrêter, mais c'est pas grave, ce serait « La nouvelle faute de Saül », comme dans ma Bible, ou bien j'ai réfléchi, je me suis dit « Ah non, pas encore, on va se démoraliser tous ». Et j'ai pensé « La souffrance de l'Éternel et la souffrance de Samuel ». Parce que eux, ils devaient encaisser ça. Dieu, vous croyez que ça lui faisait plaisir ? Hein, souvent, on a l'impression que quand quelqu'un se casse la figure comme ça, Dieu il est là, où tu vas voir mon gars ce que tu vas prendre. Et c'est pas du tout ça. Et là on le sent très, très bien ces passages. La souffrance de Dieu et la souffrance de Samuel. C'est horrible. On n'y pense jamais ça, la souffrance de Dieu. Hein. C'est vrai, on y pense. Enfin vous peut-être, mais moi j'y pense pas souvent. Et là ça m'a frappé. Je vais vous dire pourquoi. Samuel dit à Saül, c'est moi que le Seigneur a envoyé pour te conférer l'onction afin que tu sois roi sur ton peuple. Tiens, il vient voir Saül. Et il va l'envoyer une mission. Là, on va sauter un tout petit peu. Et la nuit, Dieu va parler à Samuel. La parole du Seigneur parvint à Samuel. Je regrette d'avoir investi Saül de la royauté, car il s'est détourné de moi. Il n'a pas exécuté mes paroles. Samuel en fut fâché et il cria vers le Seigneur toute la nuit. Dans ce chapitre, on va ressentir de plus en plus la souffrance de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu nous voit foirer comme ça, y aller à la force du poignet, avec des rites extérieurs et rien dans le cœur ou pas grand-chose, Qu'est-ce que ça lui fait? Il est là à nous attendre, il dit, tu vas voir ce que tu vas prendre. Non, il souffre. Il souffre. Ça lui fait mal. Et je pense qu'avec Saül, il a énormément souffert. Parce que Samuel, on le voit déjà dans Samuel, Samuel avait un espoir extraordinaire dans ce gars. D'ailleurs, toute la nuit, il va crier à Dieu. Si ce n'est pas du chagrin, c'est quoi? Toute la nuit, il va crier à Dieu. Parce que lui, il a dû repasser dans sa tête l'histoire des ânes perdus, là. Et comment Dieu s'était arrangé pour qu'il tombe sur Samuel, pour que Saül le rencontre, pour que Samuel lui donne une prophétie qui allait se vérifier et qui va se retrouver à un certain endroit, etc. Enfin, tout ça s'est revenu à l'esprit de Samuel. Tout ce que Dieu avait fait pour Saül. Et puis, voilà maintenant où on en est arrivé. La parole du Seigneur vient exactement comme pour Élie. Ça a dû lui rappeler des souvenirs à Samuel. Vous vous souvenez pour Élie? Il était gamin, le pauvre Samuel. Il a dû entendre la colère de Dieu, le chagrin de Dieu à propos des fils d'Élie. Et là, ça recommence. Et je pense que là, ça devait vraiment le casser, Samuel. Non, on ne va pas recommencer ça. Pas encore une fois. Et je pense que, en terminant, on verra ça la fois prochaine, la grosse, grosse bêtise encore de Saül. Mais je pense qu'il faut mieux se centrer davantage sur Dieu ce matin et se dire chaque fois que nous, on fait des bêtises, chaque fois qu'on désobéit et qu'on a au fond du cœur le diable qui nous dit ton Dieu, il va pas être content après toi et puis il va te punir. Hein, il nous montre cette image. C'est un maître dur, je cache mon talent et ainsi de suite. Hein. Cette image, il aime bien nous la donner. Mais la vérité, c'est que le cœur de Dieu est blessé. Chaque fois qu'on désobéit, chaque fois qu'on ne fait pas confiance, chaque fois qu'on est dans l'incrédulité. Je lisais ce matin quelque chose sur l'incrédulité, qui est la racine de tous les péchés. J'ai réfléchi à la question. Chaque fois qu'il voit ça, ça lui fait un pincement de cœur. Parce qu'il se trouve qu'il a un cœur imaginé. Et ça, on l'oublie. Et ça, le diable s'arrange pour qu'on ne le sache pas. Ou qu'on n'y pense pas. Ou qu'on l'oublie quand on l'a su. Que Dieu a un cœur. Et chaque fois qu'il nous voit désobéir, chaque fois qu'il nous voit refuser de nous repentir, chaque fois qu'il nous voit refuser d'être libéré de quelque chose, chaque fois qu'il nous voit traîner dans des trucs et tourner en rond dans notre désert pendant 40 ans, il souffre. Il se dit, mais Jésus est mort pour leur offrir autre chose. Mais pourquoi ils n'en profitent pas? Vous imaginez le chagrin de Dieu chaque fois qu'on tourne dans notre désert et il est là, il nous regarde en se disant, quand est-ce qu'il va arrêter? J'ai envoyé Jésus pour ça. J'ai envoyé Jésus pour le libérer. Quand est-ce qu'il va arrêter de se plaindre? Quand est-ce qu'il va arrêter de souffrir? Quand est-ce qu'il va arrêter de pleurer? Quand est-ce qu'il va arrêter de se soumettre à l'ennemi? Quand est-ce qu'il va arrêter de faire les quatre volontés du diable alors que le diable a été vaincu à la croix? On n'y pense pas, hein? Mais j'avais beaucoup aimé, un prédicateur était passé ici et disait, le Saint-Esprit habite en vous et chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous désobéissez ou vous imaginez, il y a le Saint-Esprit en vous qui dit « Ah non, 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 pas ça !» Eh oui, le Saint-Esprit, il y a certainement des tas de choses qu'il n'aime pas. Et quand on commence à dire ou à faire des choses qui sont vraiment opposées à la parole de Dieu, « Non, non, non !» Et je repense aussi à c'est l'actuel recteur de Vaux-sur-Seine là, qui disait « La grâce de Dieu, ce n'est pas un truc qu'on manipule, c'est une personne qu'on a offensée. » et qui a mal. Je l'ai retenu parce que ça m'a choquée, parce qu'on n'y pense pas à ça. On fait mal à Dieu. On se fait mal à soi, ça c'est sûr, mais du coup doublement, le chagrin de Dieu, qui voit qu'on lui fait mal à lui, on se fait mal à soi. Et c'était un petit peu le regard que je voudrais qu'on porte pour la prochaine fois sur la chute de Saül, au lieu de regarder, oh là là, il les accumule, et Dieu va le frapper, et il va mourir à la guerre, et ainsi de suite. Se dire quelle a été la souffrance de Dieu pendant toute cette période. Et relire ce texte, essayer de relire les chapitres qui suivent là, en ayant ça à l'esprit. Si on peut, quelque part, se mettre à la place de Dieu et regarder la chute là de Saül en se disant quelle a été la souffrance de Dieu. Terrible. Et aujourd'hui, par rapport à nous-mêmes, aux hommes de Dieu qui chutent, etc., se dire quelle est la souffrance du cœur de Jésus. J'ai donné ma vie pour ça. J'ai vaincu l'ennemi, mais pourquoi ils n'en profitent pas? Et peut-être que si on a conscience que notre désobéissance fait du chagrin à Jésus, fait du chagrin à Dieu, et pas le chagrin comme on veut expliquer à un enfant, tu sais, Jésus, il a de la peine. Non, c'est vraiment une angoisse profonde, c'est vraiment terrible pour lui. se dire, mais j'ai tout fait, je ne peux pas en rajouter. Et peut-être que dans ces cas-là, on aura plus facile aussi à ne pas désobéir ou à demander pardon. Parce que notre pardon, ce n'est pas une humiliation de notre volonté, nous, pauvres humains, devant un Dieu tout-puissant. Mais c'est simplement, on va aller consoler le cœur de Dieu en rentrant dans sa volonté, en lui demandant pardon. C'est pour ça que Jésus a dit la joie dans le ciel. La joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Pourquoi il y aurait de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent? Franchement. Parce que justement, le cœur de Jésus est consolé. La joie de quelqu'un qui se repent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un se repentir, d'ailleurs, je ressens un peu comme Moïse devant le buisson ardent, on a envie d'enlever ses chaussures. Et ouh, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, la repentance. Ce n'est pas le truc que je fais pour régler mes comptes avec le Seigneur, parce qu'il est sévère, et sinon, qu'est-ce que je vais prendre comme correction? Simplement, on touche son cœur de pardon, et on rentre dans sa volonté, et on le rassure, on le console. Parce qu'il se trouve que, d'accord, il n'a pas de péché, mais la souffrance, il connaît. Donc, chaque fois qu'on a envie de désobéir à Dieu, de faire nos quatre volontés, de faire des grosses bêtises ou des petites bêtises, essayons de penser au cœur de Jésus. Et je pense que ça nous aidera plus que de se dire « il est au coin du bois avec un bâton pour me taper sur le dos ». Parce que quelquefois, on a ce petit côté un petit peu révolté. Et alors, eh bien, il me punira. Na. Hein? Ça, c'est bien français aussi. Hein? Non, pensons à autrement. Et je pense, si vous pouvez relire ce texte avec ces yeux-là, moi, je sais que je vais le faire aussi. Et pensez à ce que Dieu a dû souffrir quand il a vu ça. Peut-être on aura un autre regard aussi sur la parole de Dieu et sur nos propres péchés.